Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, l'écologie va-t-elle dynamiter les clivages ? Il se sent poussé des ailes, Yannick Jadot. Certains diront qu'il allait dans l'ongle, en tout cas de l'ambition, celle de peser comme jamais les écologistes avant lui dans le débat politique national, à la conquête du pouvoir, comme il l'explique ce jour dans une interview au Monde. Celui qui fut militant à Greenpeace, candidat à la présidentielle de 2017 avant de se retirer pour soutenir Benoît Hamon, est aujourd'hui en position de force. Sa liste Europe Écologie Les Verts est arrivée troisième aux dernières européennes, 13,47% des suffrages exprimés. Alors certes, ça ne fait pas une majorité, mais pour une fois, les écologistes peuvent dicter leurs conditions à leurs alliés naturels que sont les socialistes et ceux qui gravitent autour des cendres du PS. Dans un entretien au JDD, le secrétaire national de ELV, David Cormand, résume les ambitions de sa famille politique. « Désormais, dit-il, c'est à nous de dessiner un nouveau paysage. Après l'effondrement du bloc sociodémocrate et de celui de la droite, nous travaillons à faire émerger une alternative à Emmanuel Macron et à Marine Le Pen. » Problème, les écologistes n'ont pas le monopole de l'écologie. Tous les partis, tous les mouvements en ont intégré des éléments plus ou moins conséquents dans leur programme. Une composante amenée à prendre de plus en plus d'espace sans bouleverser nécessairement les grands équilibres actuels. Alors l'écologie va-t-elle dynamiter les clivages ? C'est la question du soir en compagnie de trois invités. Lucille Schmitt, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la cofondatrice du think tank La Fabrique écologique, ancienne élue socialiste. Vous étiez candidate lors des dernières européennes sur la liste Urgence écologie menée par Dominique Bourg, liste qui a recueilli 1,82% des suffrages exprimés. Pour discuter avec vous, Mathieu Orphelin, bonsoir.
Bonsoir à vous.
Vous êtes le député du Maine-et-Loire, vous n'êtes pas le seul, non inscrit désormais après avoir été élu sur les listes de La République En Marche, ancien porte-parole de la Fondation Nicolas Hulot. Et puis troisième invité, Erwan Lecoeur, bonsoir.
Bonsoir.
Sociologue et politiste, spécialiste des mouvements écologistes et de l'extrême droite. Vous étiez autrefois, enfin parmi vos précédentes fonctions, notamment directeur de la communication de la ville de Grenoble, la seule grande ville aujourd'hui à être dirigée par un maire écologiste, en l'occurrence Éric Piolle. Alors revenons sur ce score réalisé par Europe Écologie Les Verts donc aux européennes. Troisième meilleur score derrière le Rassemblement National et derrière La République En Marche. Est-ce que vous diriez les uns et les autres que ça fait de l'écologie, des écologistes, la troisième force politique aujourd'hui en France? Ou bien est-ce qu'il y a peut-être un effet grossissant du fait de ce mode de scrutin si particulier que sont les européennes? Erwan Lecoeur.
Je dirais les deux. Exactement. D'abord, le mode de scrutin permet aux écologistes, à chaque fois, les années en neuf, vous le remarquerez, depuis le début des élections européennes, de réussir plutôt bien les européennes. Hein. Toutes les années en neuf, ils sont autour ou au-dessus de 10%. Les années en quatre, c'est plutôt le Front National qui a fait parler de lui. Donc première chose, oui, cette élection est un prisme grossissant pour les idées écologistes qui sont les idées, je dirais, challenger dans l'offre politique du XXIe siècle et de la fin du XXe. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est quand même la troisième force sociologique aujourd'hui dans nos pays, pas seulement en France, et qui a tendance à devenir et essaie de devenir une force politique. Elle ne l'est pas encore tout à fait. Elle essaie de l'être depuis un certain temps. Je rappelle que dès 1992, elle a déjà pris la tête d'une région, Nord-Pas-de-Calais. En 1999, Cohn-Bendit fait 10%. Et à chaque fois, les écologistes, notamment les Verts, mais pas seulement, l'écologisme qui n'existe pas en politique parce qu'il n'a pas réussi sa mue, l'écologisme politique et sociologique, les créatifs culturels, hein, ces fameux proches de l'écologie en termes d'idées, pèsent 30 et quelques pourcents dans la société, mais il n'y a pas encore d'offre politique à cette hauteur. Aujourd'hui, il pèse entre 10, 15% et au mieux 20% de la société.
Est-ce que vous partagez cette analyse-là, Mathieu Orphelin ?
Je partage en partie. Il y a quand même une grosse différence par rapport à 2009 et au bon score d'Europe Écologie à l'époque. C'est qu'à l'époque, ils étaient les seuls à porter l'écologie. Et là, en 2019, on a eu la quasi-totalité des listes, sauf bien sûr les Républicains, sauf le Rassemblement National qui a inventé son localisme mais pour recycler ses vieilles idées nauséabondes. Mais sinon, tout le monde se revendiquait en totalité ou en grande partie de l'écologie. Et c'est quand même là, une évolution majeure qui va dans le bon sens, parce qu'effectivement, bien sûr, on peut les uns les autres se féliciter du score du Parti écologiste et des autres listes, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'écologie est la grande gagnante de ces élections.
Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas simplement ajouter le score d'Europe Écologie Les Verts et le score d'Urgence Écologie, mais aussi peut-être un peu du score de La République En Marche, un peu du score des Républicains, un peu du Parti Socialiste, un peu même du Rassemblement National ?
Des Républicains et du Rassemblement National, mais à part ça, moi je trouve qu'il faut acter que la totalité des autres grandes listes, y compris Urgence Écologique, fait un score quand même très notable compte tenu des moyens dont ils disposaient. C'est très bien que l'écologie soit portée maintenant globalement. Ça permet aussi de voir les points de consensus, parce que l'écologie, c'est quelque chose qui doit rassembler, mais aussi les points de clivage, qui ne portaient pas l'écologie de la même façon. Mais moi, je dis aux uns et aux autres, et notamment, vous faisiez référence à Yannick Jadot, qui est quelqu'un que j'apprécie, mais je lui dis...
Quand on dit ça en général, c'est pour pas être très sympa avec lui après.
Hein. Attention, l'écologie n'appartient à personne. L'écologie doit rassembler. Oui, c'est l'avenir de la politique. Oui, c'est l'avenir du débat démocratique, mais il faut se donner les possibilités de faire ensemble et de rassembler autour de l'écologie. Donc, je lui dis à lui comme aux autres, un peu d'humilité, travaillons au maximum tous ensemble sur ces sujets-là.
Et vous, Lucille Schmitt, qu'est-ce que vous lui dites à Yannick Jadot ?
Moi, je dis plusieurs choses. D'abord que l'écologie, vous disiez, est-ce que l'écologie fait éclater les vieux clivages droite-gauche, extrême-droite, extrême-gauche. L'écologie est indéniablement ailleurs pour différentes raisons. D'abord parce que, je crois que ça a été, Mathieu et Erwan viennent de le dire, quelque part l'écologie, ça appartient autant à l'espace intime de chacun, à son histoire personnelle, qu'au champ politique. Et d'ailleurs, c'est une des difficultés auxquelles ont eu à faire face les Verts, auxquelles ont à faire face tous ceux qui se disent écologistes dans le champ politique, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se réclament de l'apolitisme et qui se disent fortement écologistes. C'est notamment la tradition des ONG, de toutes les grandes associations qui ont existé avant les Verts, qui leur ont préexisté, les Amis de la Terre, Greenpeace. Il faut rappeler que tout ça d'ailleurs vient des États-Unis. Rachel Carson, elle écrit Silent Spring en 1962. Donc il y a quelque chose de très fort dans la société avant que ça se traduise politiquement. Les Verts ont été créés en 1984. C'est un parti récent.
Et donc, même après, d'ailleurs, hein, quand on voit par exemple une organisation comme la Fondation de Nicolas Hulot, dont Mathieu Orphelin était le porte-parole, c'est aussi une fondation qui se veut apolitique, qui se présente de cette manière,
donc,
en tout cas.
Il y a cette question de chacun face à son fort intérieur. Il y a la question de l'apolitisme de ces grandes structures. Et puis, il y a la question des sciences. C'est-à-dire que quand vous êtes quelque part dans un débat entre quelqu'un qui fait de l'écologie au sens politique du terme et puis un scientifique, il y a quelque chose qui fonctionne dans le « moi j'ai la vérité parce que les sciences l'ont dit » et il y a le sujet démocratique. Et donc tout ça fait que se dire leader des écologistes, à la fois pour un parti politique et pour un leader politique, c'est très compliqué parce que quelque part l'écologie échappe au champ politique traditionnel. Et encore plus dans un moment où, on vient de le dire, les appareils politiques de droite et de gauche sont complètement en attrition. On voit bien qu'ils ne font pas les scores qui étaient prévus, etc. Donc il y a un sujet sur personne n'est propriétaire de l'écologie, à la fois ça a été démontré par cette élection, et par ailleurs personne n'en est propriétaire parce que quelque part chacun veut faire de l'écologie hors du champ politique et se pose la question donc de comment est-ce qu'on articule des victoires électorales à une présence politique dans le champ culturel. Moi je pense que ce qui s'est joué aussi dans cette élection, c'est une victoire culturelle de l'écologie qui ne donnera pas mécaniquement des victoires électorales.
Est-ce que ça veut dire que l'écologie ne peut pas à elle seule définir un clivage ou une alternative dans l'offre politique aujourd'hui ? C'est-à-dire on l'est ou on ne l'est pas, Erwan Lecoeur ?
Si, si, elle définit à elle seule en tant qu'écologisme.
Oui, mais si tout le monde l'est...
Mais non, 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 tout le monde ne l'est pas. C'est bien le problème. Il y a culturellement, sociologiquement, on va dire 30% de la société qui est aujourd'hui acquise aux idées que l'écologie porte, grosso modo. Hein, féminisme, écologisme, solidarité, etc. Voilà, ça c'est... Sociologiquement, on a une victoire culturelle de ce point de vue, je suis d'accord avec Lucille Schmitt, il y a une victoire culturelle qui date d'il y a un certain temps maintenant.
Enfin, une victoire culturelle, ça ne fait pas une majorité, loin de là, si
non,
on est à 30%.
Ça ne fait pas encore une majorité, mais les autres non plus, parce que les deux blocs qui sont face... Alors, si on prend une théorie... moi, j'ai ma théorie des trois blocs depuis maintenant 15 ans environ.
Bah, allez-y. Donc,
je vais vous la fourguer, hein, parce que je la fourgue à tout le monde. En gros, je travaille sur le Front National et l'extrême droite depuis les années 90 à peu près. Il y a un bloc là qui est clair, national populiste, qui a pris la plupart des grands pays de ce monde. L'Inde, la Chine, la Russie, les USA, le Brésil, la Turquie, etc. L'identitarisme profite à ce bloc-là. Ce bloc-là, il est fort aujourd'hui. Il est extrêmement fort dans le monde entier et il arrive en Europe. Deuxième bloc, un bloc que je vais appeler le bloc de l'héritage de la gauche et de la droite d'antan, c'est-à-dire le bloc central qui dit « moi je vais gérer ». en bon libéral, pas libertaire pour un sou, en bon libéral gestionnaire. Et je trouve que Emmanuel Macron incarne ça parfaitement bien en France et d'autres ailleurs en Europe ou dans le monde. Ça, c'est le bloc du Parti du Congrès. C'est ce bloc qui se dit progressiste, qui est surtout gestionnaire, libéral et centriste. Et puis, il y a un troisième bloc qui peine à émerger parce qu'il a pris quand même pas mal de choses dans la figure depuis 1989. Vous parliez sur cette antenne de Tiananmen. On parlerait sur cette antenne de tout un tas de choses qui sont passées à ce moment-là. Oui, il y a la chute du mur, il y a Tiananmen, mais il y a aussi la fin de l'hypothèse que Gorbatchev avait mis en place, qui était une autre hypothèse que l'URSS d'un côté, ou bien la démocratie de Fukuyama de l'autre, et la fin de l'histoire. Donc, il y a ces trois blocs aujourd'hui. L'écologisme me semble être la pensée principale du troisième bloc, parce qu'il y a une vision du monde que la gauche n'a plus depuis longtemps, que les autres forces sociales non plus. Et donc, il y a cette force sociale tente à devenir force politique, mais elle émerge. Et c'est ça qu'on est en train de discuter.
Brièvement, Erwan Lecœur, avant de redonner la parole à Mathieu Orphelin et à Lucille Schmitt, mais est-ce que vous considérez qu'il y a une absolue étanchéité entre ces trois blocs? Puisque des écologistes, il y en a du côté de ce bloc majoritaire aujourd'hui qui est au gouvernement. Dans la liste de La République En Marche, il n'y avait pas...
Il y a
par exemple,
gens,
quelqu'un comme Pascal Canfin, il y a bien sûr Nicolas Hulot, alors qu'il n'est plus ministre, mais qu'il a été.
Très malin de la part de Pascal Canfin d'aller prendre un électorat de droite et d'en faire des députés écologistes. C'est vraiment très malin. Et s'il était là, je lui dirais bravo. Avec Pascal Durand, vous avez réussi à faire plus de députés écologistes avec un électorat qui n'était pas forcément. Donc pourquoi pas? Oui, il y a une victoire et culturelle, et il commence à y avoir des victoires politiques parce que le personnel politique de l'écologie n'est plus celui des années 70 et 80.
Est-ce que c'est parce que vous partagez cette idée qu'il y aurait trois blocs aujourd'hui, Mathieu Orphelin, que vous n'êtes plus député La République En Marche et que vous êtes désormais non inscrit, peut-être non pour inscrit vous inscrire à l'avenir avec les écologistes.
Écologiste, comme j'essayais de l'être aussi dans la majorité. Moi, je ne vais pas dire que la majorité actuelle porte parfaitement l'écologie. Ce serait incohérent avec le chemin que j'ai parcouru au cours des derniers mois. Mais je ne suis pas tout à fait à l'aise avec cette théorie des trois blocs que je respecte, étant
à portée de main d'Erwan Lecœur,
moins intelligent que lui. Mais moi, je suis d'accord sur le pilier nationaliste, Rassemblement National, avec qui on n'a rien en commun, on n'aura jamais rien en commun. Maintenant, sur les deux autres têtes du triangle, moi je crois que ce qui m'intéresse, c'est la mutation de l'offre politique. Et je crois que chacun est en train de muter à sa vitesse, souvent pas assez vite, etc. Mais je crois que l'écologie, c'est un chemin. Et moi, je participe pas à dire à ce screening au début, de dire, voilà, toi t'es écologiste, toi tu l'es pas. Moi, je crois que, par exemple, quand j'entends Yannick Jadot dire « Génération et pas un parti écologiste », ben moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que quand j'ai discuté à Angers, là où je suis élu, j'ai vu les militants de Génération tracter sur les marchés, à mon plaisir, on a pris des pots, on a discuté. Mais non, ils portent aussi l'écologie. Je pense que ce qui est intéressant, c'est le chemin. Si effectivement, là, ce formidable message envoyé par les électeurs, et notamment par la jeunesse, c'est ça aussi qui est nouveau, hein, cette fois-ci, c'est vraiment cette tranche des 18 25 ans, qui est massivement et dans une radicalité de l'action hyper positive, etc. Mais je crois que si ça a fait bouger Renaissance, ça fait bouger la majorité. On va voir si ça se traduit maintenant dans les actes politiques français et européens. Mais moi, je crois que l'écologie, c'est ce chemin. Et donc, il faut qu'on ait une responsabilité collective. Moi, j'ai pas la solution plus que les autres, mais de dire il faut aussi voir ce mouvement des forces politiques traditionnelles qui sont en train de muter positivement. Place publique, le Parti Socialiste s'est mis à porter très fort l'écologie. Moi, je pense que c'est bien. Génération également. Europe Écologie, tout ça. Il faut qu'on arrive, et c'est peut-être là la divergence pour l'instant, mais tout est affaire de convergence avec Yannick Jadot, avec les autres, avec David Cormon. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à rassembler le plus largement possible, et y compris travailler, réfléchir avec l'offre de la majorité.
Alors, comment est-ce que vous vous positionnez, vous, sur cette question, Lucille Schmitt? Est-ce que vous diriez qu'il faut aussi peut-être sortir l'écologie de la logique partisane qui a été celle du système politique français pendant de très longues années, de très longues décennies, à savoir soit on appartenait plutôt à la gauche, soit on appartenait plutôt à la droite, avec cette idée, alors qui n'est pas une idée récente, hein, qui ne date pas évidemment de ces dernières européennes, que l'écologie pourrait un peu transcender ces clivages. C'est pas Emmanuel Macron finalement qui a inventé le ni droite ni gauche, c'est aussi quelque chose qui se débat à l'intérieur du monde écologiste depuis assez longtemps.
On voit qu'Emmanuel Macron a inventé ni droite ni gauche pour conquérir le pouvoir et on voit que sa politique est de plus en plus à droite.
Les écologistes pourraient s'en inspirer, justement.
Ce que je pense, c'est que le sujet sur l'écologie, c'est que pourquoi est-ce que le champ politique est desséché et pourquoi la démocratie ne va pas très bien? Parce que on ne met jamais le contenu sur le devant de la scène. Et avec l'écologie, on est obligé de réfléchir très concrètement sur ce que ça signifie être écologiste. C'est pour ça que Erwan Lecoeur parlait d'écologisme. Moi, je pense que avant de donner un nom, mais c'est bien de donner un nom, mais il faut s'intéresser à ce que ça, on entend par là sur le plan du contenu concret des idées, du projet, et ensuite sur le contenu concret des actes. Parce que, au fond, l'important, c'est ce que nous disent les sciences. C'est-à-dire qu'on a une fenêtre d'opportunité de 15 ans à peu près, pour agir, pour limiter le dérèglement climatique à 2 degrés et pour lutter contre la sixième extinction des espèces. Et à côté de ça, il y a un côté géo-trouve-tout et concours l'épine là, pendant les campagnes électorales. Il faut dépasser maintenant cette foire aux idées sur l'écologie pour entrer dans les actes. Et je pense que la société française fait preuve d'une grande maturité sur cette question du lien entre le projet et les actes. Et c'est en ce sens que personne n'est propriétaire des voix qui se sont portées sur les Verts ou sur d'autres listes écologistes. Pourquoi ? Parce que maintenant, les élections européennes, c'est quelque part une élection particulière. On le sait bien, c'est une élection un peu abstraite, un peu lointaine. Les élections qui suivent, c'est les élections municipales, qui est une élection extrêmement concrète et plus incarnée. C'est-à-dire qu'on élit son maire et quelque part, on pourra juger concrètement dans sa ville de ce qui va se passer dans les années qui viennent. Donc on pourra faire le lien entre ce que disent les sciences et ce qui se passe dans la ville. Donc on pourra faire l'écologie des actes. Et en ce sens, moi, ce que j'aurais tendance à dire sur les questions des clivages, c'est que l'écologie introduit sans doute de nouveaux clivages. C'est un nouveau clivage entre les paroles et les actes, un nouveau clivage entre les productivistes et les antiproductivistes. Il reste à démontrer que lorsqu'on est antiproductiviste, lorsqu'on est écologiste, pour entrer dans la catégorie d'Erwan Lecoeur, qu'est-ce qu'on fait pour avoir un projet de pratique du pouvoir? Je termine juste en disant une chose, c'est que jusqu'à présent, les écologistes, les Verts ont été associés à des majorités socialistes. Dans les régions, dans les municipalités, ils ont été au gouvernement. Mais à chaque fois, ils n'ont pas démontré leur capacité à porter un projet en propre.
Justement, d'un mot, Lucille Schmitt, oui. Est-ce que du fait de cette participation au pouvoir, parce que quand on veut juger sur les actes, encore faut-il être en mesure d'agir, est-ce qu'ils sont aussi, est-ce qu'ils doivent aussi répondre des actes qui ont pu être les leurs dans leur participation aux différents gouvernement, que ce soit celui d'Emmanuel Macron, que ce soit sous la majorité de François Hollande ou sous les précédentes, ou bien est-ce que c'est un terrain vierge pour vous? Vous dites, bah voilà, c'est encore quelque chose qui est à conquérir, on part de zéro.
Je pense que c'est les deux, c'est-à-dire que évidemment il faut répondre des actes qu'on a pu porter. Ceci dit, les ministres verts ont démissionné du gouvernement de Manuel Valls, mais c'est vrai qu'ils l'ont pas fait sur un enjeu environnemental. Donc la question au fond qui est posée, c'est lorsque les écologistes participent à des majorités dans les municipalités, dans les régions. Qu'est-ce qu'ils portent en propre et comment est-ce qu'ils s'associent ou pas au bilan? Moi, je pense que peut-être il faut être plus précis qu'ils ne l'ont été jusqu'à présent, puisque maintenant leur revendication d'exercer le pouvoir est autonome, alors qu'avant elle se faisait à l'occasion d'alliances.
Alors Mathieu Orphelin et ensuite Erwan Lecoeur.
Une chose très importante dans ce que vient de dire Lucille Schmitt, c'est l'écologie, c'est la cohérence entre les discours et les actes. Et c'est ça qui manque à certains pour l'instant, c'est effectivement d'assurer cette cohérence entre les mots utilisés et la réalité des politiques mises en œuvre. C'est fondamental et je crois que c'est ça l'avenir de l'écologie, de ceux qui prétendent porter l'écologie, c'est assurer cette cohérence.
Et mais on ne peut pas le dire pour n'importe quelle famille politique.
Non, mais là, sauf que là,
la nécessité de la cohérence.
On est dans, dans cette urgence qui dit on a 11 ans pour baisser au niveau mondial de 45% les émissions de gaz à effet de serre. Pour un pays comme la France, ça veut dire diviser par 3 en 11 ans. Vous voyez ce défi fabuleux. Heureusement, on a les solutions dans la quasi-totalité des secteurs, sauf l'aérien. Mais donc, il s'agit de mettre en œuvre des politiques nouvelles et de façon radicale. J'utilise volontairement ce mot qui, pour moi, peut être très positif. Donc, il faut cette cohérence-là. Et je crois qu'il faut ce que j'essaie d'appeler la pleine conscience écologique. C'est-à-dire, c'est que une fois qu'on a pris conscience de tout ça, qu'on peut, en tant que responsable politique, mettre en œuvre les politiques qui s'imposent d'une certaine façon. Donc ça, c'est, je crois, fondamental et c'est ce qui fera l'avenir de l'écologie.
Erwan Lecoeur.
Moi, il y a un mot qu'on n'utilise pas vraiment ici, qui me semble assez essentiel dans la question de l'écologisme ou de l'écologie en politique ou en société, c'est le mot de mouvement social. Il y a un fondateur de l'écologie qui s'appelait Serge Moscovici, qui est un psychologue social, qui a imaginé et qui a découvert une théorie absolument effarante, incroyable, sur les sociétés modernes, qui est la théorie des minorités actives. Et il dit, pour être une minorité active, il faut un certain nombre de choses. Les écologistes le sont, d'autres peuvent l'être aussi, le mouvement gay, le mouvement féministe, etc. Et pour devenir un mouvement social, pour sortir de la minorité active, il faut faire un certain nombre de choses. On voit bien qu'aujourd'hui, l'électorat volatile, qui n'est absolument pas, je suis d'accord, la propriété d'un parti politique. Parce que cet électorat, il va repartir. Les 20% dans plein de villes de France, dans les idéopoles, ce qu'on appelle les idéopoles, l'électorat jeune, féministe, féminin en tout cas, à 17%, jeunes, plus du quart des jeunes ont voté pour les féministes. Tout ça compose un mouvement social. Et c'est ça dont on parle en réalité. On parle pas d'un mouvement politique. On parle d'un mouvement social qui cherche des façons d'exercer le pouvoir. Il le fait à Grenoble, il le fait ailleurs. Je vais juste dire une chose. La plupart des villes de France qui sont aujourd'hui agréables, où l'immobilier a grimpé, regardez qui a fait le boulot. C'est des écologistes. Aux côtés de socialistes, mais c'est des écologistes. Paris-Plage, c'est un écologiste. À Lyon, c'est des écologistes. Même à Bordeaux, ce sont des écologistes qui ont transformé la ville. Donc il y a des réalisations écologiquement viables, en politique et en mouvement social. La question qui se pose aujourd'hui, à l'issue de ces européennes, comme elles se posaient en 2009. Je suis pas d'accord, en 2009, il y avait aussi 3,5% d'AEI, ça faisait 20% en tout. Donc déjà, il y avait des écologistes...
AEI, rappelez-nous.
L'Alliance des écologistes indépendants. Ils y faisaient 3,5%, c'est encore plus qu'aujourd'hui. Donc ils étaient encore plus haut. Vous voyez, il y a toujours des écologistes plus qu'écologistes. Même Giscard d'Estaing a fait un discours écologiste en 76, Brice Lalonde en 90. Bref, tout le monde veut être écologiste aujourd'hui. La question qui se pose, c'est dans quelle organisation, quelle nouvelle forme d'organisation les écologistes vont pouvoir prendre du pouvoir.
Alors, il ne vous a pas échappé qu'en France, nous vivons dans un système politique, sous la Ve République en tout cas, où l'élection majeure et le pouvoir s'acquiert en devenant président de la République, puisqu'on découle derrière une majorité parlementaire.
Serge Moscovici disait que c'était faux.
Alors, peut-être, mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. On va dire que le pouvoir aujourd'hui, le pouvoir essentiel, pas exclusif bien sûr, mais il est du côté de la majorité parlementaire et du côté de l'exécutif. Avec donc, je reviens à cette interview de Yannick Jadot aujourd'hui, même si à la question, quand on lui demande est-ce que vous serez candidat à la présidentielle, bon, ça y est, ça commence. Hein. Mais il ne répond pas, mais il dit quand même la responsabilité. Non, on veut se donner les moyens d'agir, voilà, il dit. On veut se donner les moyens d'agir pour se donner les moyens de conquérir le pouvoir et de l'exercer. Est-ce que la conquête du pouvoir, ça doit aussi passer par la conquête de l'Élysée pour vous, Mathieu Orphelin, pour les écologistes, ce qui voudrait dire aussi de trouver quelqu'un pour incarner cette idée. Parce qu'on devient président seul. C'est pas quelque chose de collégial à la base.
Oui, sauf que d'abord les choses peuvent évoluer et que je crois que le modèle actuel où effectivement très présidentiel avec un candidat, etc. Ça c'est des choses qui peuvent évoluer quand même. Hein.
Ouais. La réforme constitutionnelle ne va pas vers une sixième république.
Moi je pense pour tous ceux qui se rêvent d'avenir personnel en 2022, etc. Qui prennent un peu leur temps là. C'est pas l'urgence des deux prochaines ou des trois prochaines années. L'urgence des deux ou trois prochaines années, c'est de dire comment on arrive effectivement à faire de l'écologie un moteur, je le disais tout à l'heure, l'avenir de la politique. Parce que la société, elle est prête. Elle l'a montré là dans les élections. Elle l'a montré il y a quelques mois avec l'affaire du siècle. Elle l'a montré avec des mobilisations de petites associations, mais avec des nouveaux modes assez géniaux, etc. C'est la jeunesse qu'on voit aussi bien les étudiants que les lycéens. Donc il y a cette société qui est prête. Et donc il faut qu'il y ait des offres politiques qui s'imaginent. On sort des guerres d'ego, donc on sort de la présidentielle, on sort des guerres de chapelle, donc on sort des fonctionnements traditionnels, et on construit une nouvelle galaxie dans laquelle on a différents partis politiques, chacun a une histoire, chacun a une couleur, j'allais dire, mais on essaie de travailler tous ensemble. Et puis après, j'espère qu'en politique, il y aura bientôt des transfuges de cette formidable société civile, du monde syndical, du monde associatif, qui a toujours regarde le monde politique de façon en disant « Attendez, nous, on veut pas se salir là-dedans. » Mais moi, je leur dis « Venez vous salir en politique parce qu'on a besoin de ces forces vives de la société. On a besoin que ce soit ça qui vienne en politique. Il y a eu un renouvellement, là, c'est très bien, mais je crois que ça pourrait aller beaucoup plus loin et on a besoin que les grandes figures qui portent l'écologie dans les associations, les mouvements, que toutes ces idées-là viennent irriguer et redonner du sang neuf à la politique.
Pourquoi est-ce que ça pose autant de problèmes chez les écologistes, cette question de la présidentielle pour vous, Lucile Schmitton? On voit bien hein, déjà que avec Yannick Jagot, qui est très médiatisé, il fait, on le voit dans Paris Match avec sa compagne, il est considéré, alors dans un sondage, on verra bien si ça sera durable ou pas, mais comme la personnalité politique la plus populaire aujourd'hui. Et dès qu'il y a une tête qui dépasse, et ça fait aussi quand même partie ça de l'histoire de l'écologie politique, en tout cas en France, ça pose un problème.
Je pense qu'il y a effectivement, les Verts avaient la réputation d'être un parti qui coupe les têtes. Après, bon, peut-être que ça va changer parce que c'était aussi compliqué d'avoir raison au fond sur le modèle culturel et d'être aussi minoritaire. La notion se vivre comme minorité active, parfois, vous savez, c'est difficile psychologiquement. Donc moi, je leur trouve des excuses, mais je pense qu'il est temps de ne plus couper les têtes. Après, la deuxième
chose, qu'il y a un besoin d'incarnation,
oui,
en tout cas.
Voilà, en tout cas, je pense qu'il y a un besoin d'incarnation, mais ce que je voulais dire par là, c'est que moi, je ne crois pas à l'homme providentiel écologiste. C'est-à-dire que il y a un besoin d'incarnation. Il faut que quelqu'un soit la personne pour laquelle on a envie de voter. Après, l'écologie se fait avec toute la société et l'articulation entre démocratie et écologie. On a vu les difficultés que ça pose avec le mouvement des Gilets jaunes. Et quand j'écoutais Erwan et Mathieu, on voyait bien qu'il peut y avoir une tentation de dire, au fond, il y en a qui vont voter vert, et il y en a qui ne voteront jamais vert, mais qui voteront Rassemblement National. Parce que, certes, les années en 9 réussissent au vert, mais c'est quand même le Rassemblement National qui est arrivé en tête du scrutin. Et donc, il reste à convaincre des personnes qui se disent, sans doute, j'aimerais être écologiste, j'aimerais avoir un mode de vie sain, j'aimerais ne plus... Je suis prisonnier de ma bagnole, mais au fond, j'en ai marre de ma bagnole. Je crois que c'est comme ça que ça s'est exprimé avec les Gilets jaunes. Et tout le sujet, c'est quand même la conquête électorale. C'est-à-dire que moi, je pense que le sujet de Yannick Jadot dans Paris Match, je m'en fiche un peu. La question, c'est plutôt, est-ce qu'on peut imaginer un partage du pouvoir et une sorte de leadership collectif? En fait, l'écologie se jouera autour du leadership collectif. Et on voit bien qu'actuellement, le champ est complètement dans l'idée de regarder, il a été beaucoup plus génial que tous les autres leaders verts. Donc, c'est en lui qu'il faut croire. Mais je crois qu'Yannick Jadot, sa responsabilité, c'est de construire le leadership collectif grâce aux municipales. Grâce évidemment à la question de travailler avec des intellectuels, avec des gens qui ne sont pas en politique. Le leadership collectif, ça rejoint ce que disait Mathieu sur la galaxie. C'est une galaxie extrêmement diverse. Il y a des intellos, il y a des romanciers, il y a des gilets jaunes qui se disent écologistes, il y a des gens qui pourront venir effectivement de génération. Je vois pas pourquoi on déciderait qu'on est propriétaire d'un monopole. Tout le sujet, c'est ce leadership collectif. Et alors on voit que depuis une semaine, les appels à l'unité se multiplient, mais toujours avec l'idée que c'est moi qui ait proposé l'unité. Donc il y a un moment, il faut se dire que plusieurs ont proposé l'unité et comment est-ce qu'on fait?
Bon, pas d'homme providentiel ou pas de femme providentielle. Et Nicolas Hulot, alors?
Oh, Nicolas Hulot, je crois que pour l'instant, il joue un rôle extrêmement important, qui a un rôle d'incarnation ailleurs. Et faut pas, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. N'oubliez pas que le piège qui est tendu aux écologistes en permanence, comme à tout nouveau mouvement social, hein, qui émerge, il y a un piège qui lui est tendu. C'est un, faites comme tout le monde, commencez par préparer la présidentielle et ensuite on commencera à discuter sérieusement. Ça, c'était un piège absolument énorme parce qu'il faisait 16 ou 18% aux européennes, 12,5% au régional et 2% à la présidentielle. Donc le Parti Socialiste et les autres se sont frottés les mains en disant c'est bon, ils sont morts et ils attendent que ça se reproduise. Hein, faut toujours aussi penser comme ça. Quand on a des apparatchiks, évidemment, on les invite pas à manger à table sans une longue fourchette, comme disait l'autre. Donc il y a deux pièges. Un, préparer la présidentielle alors qu'il y a deux élections qui arrivent qui sont extrêmement bonnes pour les écologistes, les municipales et les régionales. Je rappelle qu'ils sont crédibles sur ces deux plans. C'est eux qui ont fait le plus bouger les villes et c'est eux qui ont fait le plus bouger les régions depuis 20-30 ans.
Donc, ça, c'est l'ancien directeur de la communication de la ville de Grenoble qui parle.
C'est l'analyste. Il y a eu une présidente de région en 1992 écologiste. Elle a bien fait bouger sa région, Marie leur Pas-de-Calais à l'époque, Marie-Christine Blandin. Je suis un analyste comme pas mal de gens autour de cette table. J'observe simplement qu'il y a des élections qui sont favorables aux écologistes et dans lesquelles ils ont des têtes de liste, des gens qui sont forts, qui sont bons, qui font du boulot sur le terrain véritablement. Les socialistes s'en sont beaucoup servis pour faire le boulot à leur place dans un certain nombre d'endroits. La question, c'est est-ce que les écologistes, quels qu'ils soient, prennent maintenant le relais? Et puis, il y a une deuxième grande question, c'est, et on le sait tous, hein, vous êtes de gauche ou vous êtes de droite? Et finalement, votre émission, elle pose cette question-là. Où en est ce vieux clivage, qui n'est pas un clivage en sciences politiques, hein, qui est une répartition de camps politiques? Un clivage, c'est pour ou contre la peine de mort. Ça, c'est un clivage en sciences politiques. Gauche-droite, ça n'a jamais été un clivage. C'est une façon de répartir simplement pour des gens qui ont un esprit pressé et qui ne veulent pas réfléchir à la complexité du monde. Ça nous a servi depuis un paquet de temps quand même, cette histoire du clivage gauche-droite. Alors, les écologistes, finalement, ont toujours été astreints à répondre à cette question. Et donc, ils étaient soit moraux de gauche, soit de droite, c'est-à-dire quand même ils étaient un peu intelligents plus que la vieille gauche. Mais aujourd'hui, les écologistes et Yannick Jadot a réussi, je le rappelle quand même, en refusant de répondre à la question. Et c'est pas un hasard. En 2009, la campagne d'Europe Écologie avait fait la même chose. Elle avait refusé de répondre à cette question par « bah on est là parce qu'on est des gentils » ou bien « non, on n'est plus vraiment là parce qu'on est des méchants ». Ne pas répondre à cette question du clivage gauche-droite, ne pas préparer la présidentielle alors qu'il y a d'autres échéances. Et enfin, vraiment, cette victoire, c'est d'abord la victoire d'un mouvement social qui s'appelle notamment les marches climat, de tous les colibris qui sont plus de 100 000 alors que les écologistes sont quelques milliers, de tous les gens dont on a parlé à la Fondation Nicolas Hulot. Il y a un mouvement social qui ne demande qu'à être reconnu et à prendre le pouvoir sociétalement. Ce mouvement social, c'est pas le petit parti EELV que j'apprécie par ailleurs qui peut le représenter seul. Donc il y a en effet des portes et des fenêtres à ouvrir, mais c'est peut-être pas aux politiques qui ont fait, entre guillemets, le XXe siècle, de dire comment et pourquoi il va falloir réouvrir le champ. En 2009, il y avait l'idée d'une coopérative écologiste. Pourquoi ne pas reprendre cette idée tout simplement ?
Mathieu Orphelin, je reste un instant sur Nicolas Hulot. Vous avez été le porte-parole de sa fondation. Vous êtes proche de l'ancien ministre de l'écologie. Est-ce que vous considérez que ce qui se passe aussi aujourd'hui, cette prise de conscience, elle découle notamment de sa démission? Ça a quand même été un des événements politiques de l'an dernier. En tout cas, ça a été l'événement politique de la rentrée. C'était fin août, me semble-t-il, début septembre, fin août, je crois. Est-ce que ça a aussi été un déclencheur et que finalement, cette démission, le fait de quitter le pouvoir, a aussi permis peut-être aux idées écologiques de peser davantage aujourd'hui?
Moi, je crois que oui, ça a été un des facteurs. C'est pas le seul facteur, mais effectivement, on l'a vu, cette démission qui a provoqué vraiment un sentiment très fort dans le pays. Je crois que tout le monde a été touché, même ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, parce que c'était cette sincérité qui est parfois si rare en politique qui s'exprimait à ce moment-là. Évidemment, quelqu'un qui était là pour faire carrière ou un stratège politique aurait sans doute pas fait ça. Lui, il était là avec sa sincérité, avec l'honnêteté qui fait que les Français apprécient son combat. Je crois que oui, dans les marches climat qui ont suivi dans les semaines après, qui avaient été lancées par un certain nombre de citoyens, bah, cette question de la démission de Nicolas Hulot, elle est revenue vraiment comme un des facteurs, pas le seul, mais qui a été qui a fait que les gens ont été marchés quelques dizaines, quelques centaines de milliers. Et effectivement, ça a permis aussi de démarrer cette prise de conscience qui, après, les jeunes ont pris la main de manière formidable. Mais en tout cas, oui, ça a été un facteur important.
Est-ce que ça traduisait pas aussi justement le constat que pour que les idées écologistes pèsent, elles le font peut-être davantage à l'extérieur du pouvoir politique qu'à l'intérieur, parce que l'APT est le seul à suivre cet itinéraire. Non, Cécile Duflot qui se retrouve à Oxfam, alors Pascal Canfin, bon, ça n'a pas été très long, mais qui a dirigé le WWF. Ouais. Les ONG sont puissantes.
Bien peut-être sûr, tant mieux, il faudrait qu'elles soient encore plus puissantes, parce qu'effectivement, quand on voit le peu de moyens qu'elles ont et la place qu'elles ont dans le débat public, c'est très bien. Effectivement, elles ont moins de moyens qu'un certain nombre d'autres lobbyistes qu'on voit notamment essayer d'agir sur les parlementaires. Hein. Les deux tiers des actions des lobbyistes, c'est sur les parlementaires. Il n'y a pas un jour où on ne reçoit pas un amendement préécrit, un coup de fil d'un cabinet de lobbyistes, etc. Donc, très bien qu'il y ait ces allers-retours entre la société civile et la politique. Donc, moi, je crois que c'est vraiment essentiel. Je reviens juste une seconde sur, effectivement, il faut que l'écologie, ce que disait Erwan Lecoeur, dépasse ce clivage droite-gauche. Je crois que c'est fondamental, c'est très important. J'aurais une toute petite nuance avec les mots utilisés par les uns et les autres. Il faut quand même, dans ce dépassement, respecter les histoires des uns et des autres. Et c'est vrai que moi, des formules, je sais plus lequel, mais des formules du style « on n'est pas là pour reconstruire la vieille gauche », etc. C'est vrai, hein, je suis d'accord avec ça, mais attention aux mots utilisés. Les militants, ceux qui votent, etc. Chacun a une histoire. Et il faut que ce dépassement du clivage droite-gauche, il respecte les histoires, les itinéraires de chacun. Je pense que c'est fondamental que cette nouvelle histoire politique que doit écrire l'écologie, elle rassemble le plus grand nombre et elle respecte les chemins de chacun.
Lucille Schmitt, je vais vous citer, puisque vous avez signé un article il n'y a pas très longtemps pour le site AOC. Oui. Vous évoquiez la prise en compte des enjeux écologiques qui entraînent, selon vous, une nouvelle culture du pouvoir. Elle suppose d'abandonner l'invocation nationaliste à la française pour y substituer une vision mondiale et européenne. On a parlé du niveau national, on a parlé du niveau local, mais bien sûr, on est juste après les européennes. Il faut aussi essayer de voir ce que peuvent peser aujourd'hui les forces écologistes au niveau européen. européens. Est-ce que, à la faveur de ces élections et des bons scores réalisés par les listes, alors notamment en Allemagne où c'est assez spectaculaire, est-ce que là aussi l'écologie peut être une alternative à, alors c'est plus que deux blocs en face, il y en a trois, il y en a même quatre, hein. Il y a les nationalistes, il y a toujours les sociodémocrates, il y a la droite, appelons-la républicaine, et puis il y a les libéraux, ça fait beaucoup de monde.
Oui, et puis il y a encore des tas de la droite est totalement splittée aussi au Parlement européen. Non, je pense qu'évidemment les écologistes vont peser au Parlement européen et c'est les Allemands qui, de longue date d'ailleurs, c'est les écologistes allemands qui pèsent, les Grünen qui pèsent beaucoup au Parlement européen, mais il y a aussi les Belges qui ont fait des très beaux scores. Les Français sont deuxièmes, donc il y a quelque chose effectivement sur la participation à une majorité, pourquoi pas, ça je pense que c'est un point important. Et justement dans l'exercice du pouvoir, ce qui est essentiel, c'est que on puisse montrer que il y a sans doute des compromis nécessaires, mais qu'il y a des lignes rouges. Et je crois que c'est ça auquel vont être confrontés les écologistes français. Alors, moi, je voulais juste dire une toute petite chose.
Juste un mot, ligne oui. rouge, c'est quoi? Par exemple, Nicolas Hulot, la ligne rouge, je crois que c'était quoi? C'était Notre-Dame-des-Landes, par exemple?
Non, je pense c'était que... la cohérence globale, mais c'est chasseurs. Des projets de coalition.
Il y a un projet de coalition, mais et puis il faut se rappeler que la mandature du Parlement européen a été marquée par de nombreux scandales environnementaux. Donc il y a une ligne rouge, certainement, comme d'ailleurs Mathieu Orphelin le soulignait par rapport au Parlement français sur l'action des lobbies. On l'a vu avec le Dieselgate, on l'a vu avec la question du glyphosate. Donc il y a un sujet sur la régulation des lobbies. Il y a un sujet aussi sur le fait que quand on discute des politiques, par exemple la politique de la pêche ou la politique agricole, on sache installer l'écologie au centre de la réforme de ces politiques et non pas prétendre le faire jusqu'au moment où on décide en une nuit des quotas nationaux. Et puis pour terminer, je dirais qu'il y a quelque chose à organiser sur la cohérence par rapport à ce que disent les États membres, ce qu'ils font et le Parlement européen. Il faut que le Parlement européen ait une injonction écologique, écologiste sur ce que font les États membres qui souvent font des choses à Bruxelles et font le contraire à Paris.
Et est-ce que pour vous le modèle économique, le modèle de développement des sociétés, ça peut constituer une ligne rouge, c'est-à-dire de dire par exemple, là, voilà, si on continue par exemple dans une économie productiviste, là ça ne peut pas fonctionner en aucun cas avec l'écologie, Lucille Schmitt.
Je pense que c'est un principe ligne rouge et après toute la question, on l'a dit pendant toute l'émission, c'est comment le principe ligne rouge est décliné concrètement dans un calendrier parlementaire face à des projets de directives et des textes. Donc il faut que sur chaque grand principe, ensuite les députés verts soient capables de dire bah ça on ne le fait pas, ça on fait un compromis parce que c'est ça qu'on espère, etc. C'est assez costaud, il faut aller dans le détail, parce qu'au fond, ce qu'attendent les citoyens, c'est que les écologistes aillent dans le détail et non plus seulement dans le discours de valeur. Je pense que c'est ça qui est essentiel.
Dans sa campagne en 2017, Marine Le Pen avait dans ses propositions un chapitre qui était consacré à l'environnement et à la transition énergétique, alors avec une approche très localiste, mais est-ce que il peut y avoir des alliances de circonstances entre les écologistes, par exemple, et certains nationalistes, dans la mesure où il s'agirait de faire voter des lois, des textes qui iraient vers ces questions écologistes, vers cette transition énergétique, Erwan Lecœur. Vous qui êtes spécialiste à la fois de ces mouvements écologistes et des mouvements d'extrême droite.
C'est très complexe parce que, en fait, l'extrême droite, depuis très longtemps, essaye de développer une pensée écologiste. Il y a des gens comme Alain de Benoît, il y en a d'autres autour dans l'entourage de Marine Le Pen, ils ont toujours raté, jusqu'à maintenant, leur examen d'écologiste. Ils ont réussi plus ou moins un bout de localisme, un petit peu d'animalisme, avec Brigitte Bardot et quelques autres, mais l'écologiste, ils n'y comprennent pas grand-chose. Ils ne comprennent pas le côté global de tout ça. Mais ce ne sont pas les seuls, j'ai envie de dire, ni avec cette droite ultra-identitariste, populiste et nationaliste, ça ne peut pas fonctionner, comme le disait Lucille Schmitt et le rappelait, l'écologie politique, c'est quand même le premier mouvement mondial. Le Parti mondial vert, c'est les années 70. Le Parti européen vert, c'est les années 90. C'est-à-dire que c'est des gens qui raisonnent tout de suite global et local, les deux en même temps. C'est d'ailleurs un des fondamentaux de l'écologie. Donc, pour répondre à votre question, il y a des forces politiques à travers le monde qui ne réussiront jamais à faire de l'écologie pure. Mais, attention, parce que ça réfléchit du côté de l'extrême droite. En Autriche, ils font du bio. Les gens d'extrême droite. En Inde, Modi, il fait des choses qui pourraient sembler écologistes puisque l'environnement est respecté à certains moments. Pas les humains forcément, mais l'environnement. Donc l'écologisme, d'une certaine façon, et c'est pour ça que j'utilise ce terme, et l'écologie, ce n'est pas l'environnementalisme. C'est quelque chose d'autre. C'est une vision du monde qui emprunte à une vision scientifique, au départ, l'écologie, hein, l'écologie traditionnellement, mais c'est surtout un mode de vie et un mode de penser le monde de demain. Et c'est là que les jeunes ont compris que l'écologie était l'avenir et que d'une certaine façon, on voit bien que les électorats sont exactement inverses avec ceux de l'ancien monde et ceux de l'extrême droite.
Et bien voilà qui nous servira de conclusion. Merci beaucoup à tous les trois, Lucille Schmitt, Erwan Lecoeur et Mathieu Orphelin. Cette discussion, vous pourrez la retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain, Fanny Richer, Jordan Joseph, Antoine Tricot, Virginie Leduo, Antoine Dulster, Cyril Marchand. Émission réalisée par Peyret Legras avec à la prise de son Alexandre Dang. Dans un instant, vous allez retrouver la dispute avec vous, Arnaud Laporte.
Oui, direction Venise pour parler de la Biennale d'art qui s'y tient jusqu'au mois de novembre. Mon cher Hervé, la question du Grain à Moudre demain.
Eh bien, on se demandera si en matière d'industrie, tout est une question de taille. Ben oui, voilà. Qu'est-ce qui vous fait rire comme ça?
J'attends la formulation qui arrivera demain, je pense, à point nommé.
Encore écrit.
Vers 18h20. Pour l'instant, on écoute France Culture. Il va être 19h, donc on retrouve très logiquement Aurélie Kiefer pour les titres de l'actualité.